réalisation ou de ses efforts de réduire un événement. C'est un peu la question de l'échelle. Vous avez, comme vous avez dit, la grève la plus générale de l'histoire de la France. Et vous commencez avec un événement de cette immensité. Et comment est-ce qu'on arrive, 20, 30 ans après, à ces petites formules, à cette doxa, où on n'a que quelques mots, quelques expressions, quelques petits récits, quelques images, qui sont tous des façons d'oublier ce qui est arrivé. Alors, je me suis intéressée moins à ce qui s'est passé en mai qu'à ce jeu de mémoire et d'oubli et la façon dont l'événement devient captif des représentations successives.
Mai 68, mai 69, ce n'était qu'un combat, il fallait continuer le début. L'idée d'arrêter ne nous serait même pas venue. Par contre, se posait la question de passer d'agitateur à révolutionnaire professionnel.
Les travailleurs de Renault-Flin, les militants de la Ligue communiste, vous proposent de tenir un meeting avec eux. Camarades, sans aucune façon, par les élections, on ne parviendra à aboutir ce pourquoi nous militons tous, à savoir un régime socialiste où les travailleurs connaîtraient de meilleures conditions de vie que dans le régime actuel. Pour nous, il s'agissait de montrer l'existence d'une force politique cohérente, la voix des militants révolutionnaires qui, en mai 68, ont ébranlé le régime, ont ébranlé l'État fort.
Réduit mai 68 à quelques leaders. Bon, ça, je crois que c'est très dangereux, parce qu'heureusement, mai 68, c'était pas quelques leaders. Y compris parfois des leaders qui n'ont rien fait. Mais rien du tout. Je veux dire, moi, je veux pas jouer au vieux combattant, en plus, j'ai horreur de ça, surtout ceux qui font plus rien, mais ceux qui aujourd'hui, pour défendre leur salade, utilisent leur titre d'ancien combattant. Je veux dire, moi, Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, je n'ai aucun souvenir.
Alain Krivine.
Leur activité en mai 68, ils ont dû y participer comme tout le monde, mais rien. Enfin bon, là aussi, il y a une supercherie historique, moi, vraiment. Bon.
Alors, vous commencez par replacer mai 68 dans un contexte, évidemment, historique. C'est-à-dire que vous remontez à l'Algérie, la guerre d'Algérie. Vous évoquez assez longuement le 17 octobre 61 pour replacer cette génération qui n'est évidemment... C'est pas parce que les médias n'avaient pas vu venir les choses que les choses ne venaient pas.
Oui. Oui, la grande prélude était la fin de la guerre d'Algérie. Et je crois qu'on avait intérêt un peu à oublier ce contexte pour arriver à une histoire. On connaît le cliché que c'était un coup de tonnerre dans un ciel serein. Mais je voulais montrer qu'en fait, il y avait cette histoire de la violence associée à ce que faisait l'État au moment de la fin de la guerre. C'était ça le contexte où les gens commençaient à se politiser à travers la question du colonialisme, de la décolonisation.
Mmh. Le tiers-mondisme?
Oui, le tiers-mondisme. Et on peut voir, et c'est à travers l'effort qui commençait aux années 80 de démolir le tiers-mondisme, qu'on peut voir son importance a priori.
Mmh. Oui, d'accord. Ouais. Vous parlez par exemple du bouquin de Pascal Bruckner,
oui.
le sanglot de l'homme blanc.
Oui, et de Jacques Julliard, il y avait aussi un grand débat qui a été lancé avec les Médecins sans frontières. Et ce désir qu'on avait de changer, de faire entrer une nouvelle régime de représentation du tiers-monde et de changer ce qu'a été quand même un rapport entre les militants français, les militants anticolonialistes, un rapport d'une certaine respect, d'égalité, des gens qui n'ont pas travaillé ensemble exactement, mais un peu, et l'espèce d'ouverture qui a été faite par le succès des guerres anticoloniales. Ça, c'était l'arrière-fond de 68.
Mmh. Et avec